Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
18h33, on ouvre comme chaque soir le débat des grandes voix, avec à mes côtés en studio, dans le studio d'Europe Soir, Charles Villeneuve et Gérard Carrérou. Bonsoir à tous les deux.
Bonsoir.
Et on parle, pour commencer, messieurs, de cette révolution qui s'annonce dans le milieu très feutré de la magistrature. Le ministre Éric Dupond-Moretti a décidé, ce matin, de nommer une avocate pénaliste pour diriger l'École nationale de la magistrature. C'est une première, elle s'appelle Nathalie Roret, elle est avocate pénaliste donc et vice-bâtonnière du bureau de Paris.
L'idée, c'est d'abord d'ouvrir cette école, d'ouvrir les fenêtres, d'ouvrir les portes et de dépoussiérer un certain nombre de choses qui me semblent passéistes et qui aujourd'hui ne sont plus de mise.
Alors c'est un secret de polichinelle, hein, Éric Dupond-Moretti ne supporte pas cette école de la magistrature dont il dénonce régulièrement une culture de l'entre-soi. Pourquoi Charles Villeneuve, ce changement est si important?
Parce que, à l'exception du Portugal, la seule école des juges de la magistrature, c'est la France, qui, de toute façon, ne cultive pas le doute. Et on l'a vu dans l'affaire Doutreau. Dans l'affaire Doutreau, rappelez-vous, c'était un problème d'abus sexuel sur des enfants dénoncé par une jeune femme qui s'est avérée avoir inventé quasiment toutes ces accusations pour un acquittement général à l'issue de 3-4 ans d'instruction, où le juge Burgot a été ensuite muté. Et savez-vous qu'un syndicat de la magistrature a relancé l'affaire à propos d'un des accusés mineurs dont ils espéraient qu'il allait être enfin condamné, 4 ans, 5 ans après, et qui a été à nouveau acquitté? Le président de la République, Jacques Chirac, le premier ministre Dominique Villepin ont présenté leurs excuses à tous les parents, si vous voulez, de ces accusés, dont un s'était suicidé.
Et c'est pour ça que Dupond-Moretti parle régulièrement, il disait dans son livre que vous avez là entre les mains, de la dictature des juges. C'est ça qui met en péril la démocratie. Ce sont des mots assez forts quand même.
Mais vous savez, l'un des plus hauts magistrats français, Guy Canivet, a dit, si vous voulez, beaucoup plus. Il a dit qu'il y avait là une bureaucratie judiciaire dont personne ne contrôlait.
Oui.
Et c'est en effet... Si vous voulez, avocat, lui, avait déjà réfléchi. Il avait d'ailleurs été invité par le président de l'école, un juge, un magistrat, très bon magistrat que je connais d'ailleurs et qui est aujourd'hui le président du tribunal de Marseille, et qui lui avait demandé, à lui, évidemment, qui proférait beaucoup de critiques à l'égard de cette école du non-doute, de venir passer deux jours. Or, il l'a appelé juste à la veille de son arrivée à l'école à Bordeaux, à l'École nationale de la magistrature, pour lui dire, écoutez, cher maître, cher ami, le directeur des études s'oppose à votre venue catégorique, donc vous ne pouvez pas venir. Et à partir de là, dans son livre, en effet, lui, son chapitre, si vous voulez, c'est le dictionnaire de ma vie, l'École nationale de la magistrature, l'intitulé, c'est « À supprimer », et la pour effet majeur d'encaster de tout jeunes gens dans un moule et un corporatisme dont ils ne sortiront jamais.
Oui, il dit que c'est l'école de l'entre-soi, parce que c'est vrai que les juges, alors on rappelle, sont chargés de dire le droit en rendant les décisions de justice dans les tribunaux, les procureurs défendent l'intérêt général et requièrent l'application de la loi, mais sont nommés par le pouvoir politique. Est-ce qu'il a raison, Gérard Carrérou, Dupond-Moretti, de s'attaquer comme ça à cette école de la magistrature?
Tout à
Est-ce que c'est justifié, cette histoire de dictature des juges?
Je vais essayer de vous le dire pourquoi, mais d'abord, c'est, si je lève un petit peu jusqu'à la décision de nommer Dupond-Moretti garde des Sceaux, c'est quelque part le contre-pied macronien. C'est-à-dire, on nomme pour diriger les juges quelque part quelqu'un qui était un peu la bête noire des juges, c'est-à-dire acquittator, l'avocat à succès qui a élargi beaucoup d'accusés.
Acquittator, parce que 115 acquittements, voilà, je crois, pendant sa carrière d'avocat, ce qui est quand même inédit.
Ça, c'était le premier contre-pied de nommer Dupond-Moretti. Le deuxième... Alors, le premier était intéressant.
Oui.
Le deuxième me paraît tout à fait intéressant également. Le deuxième consiste à faire une sorte l'hirondelle qui précède le printemps judiciaire en nommant une avocate, une ancienne avocate, à la tête de ce fort Chabrol des magistrats. Et alors, y aura-t-il la question, mais je vais revenir sur l'école elle-même, le troisième contre-pied consisterait effectivement à aller jusqu'au bout de la logique et à faire qu'en France, comme dans beaucoup d'autres pays européens et anglo-saxons, on puisse former des jeunes gens et des jeunes filles à être indifféremment une partie de leur vie avocat, puis une partie de leur vie magistrat, oui. ou le contraire. Oui. Ça existe aux États-Unis.
Et qu'il n'y ait plus de guéguerre entre les deux, comme c'est le cas aujourd'hui.
Évidemment, puisqu'on aurait la même formation. Bon,
parce qu'on a quand même un système judiciaire qui fonctionne, parce que Éric Dupond-Moretti, il jette l'opprobre sur l'ensemble des magistrats.
Non, mais
quand
il ne s'agit
même
pas de jeter l'opprobre, en l'occurrence.
Mais vous avez vu ce que le communiqué sur la enquête intérieure de l'inspection générale,
ils sont vent debout.
C'est la déclaration de la guerre.
Attendez, vous, j'ai pas répondu à la question qui était est-ce que c'est vraiment l'école ? Bien sûr que c'est le Fort Chabrol. Moi, je dirais l'école de la magistrature, dans sa conception telle qu'elle a fonctionné dans les 10 ou 15 dernières années, et on l'a vu à maintes reprises, c'est un peu l'école de formation des cadres du syndicat de la magistrature. C'est-à-dire que c'est l'école qui a par
une grande partie de l'enseignement est aux mains d'enseignants du syndicat
de la magistrature.
Exactement,
par un cursus et par des choix de professeurs et par une formation, oui. un corpus idéologique s'est créé et qui a fait que dans plein d'affaires qui ont défrayé la chronique, notamment quand elles avaient une coloration politique, on disait c'est encore les juges formé par l'école de la magistrature. Donc c'est devenu une plaie.
Formatage
des esprits. Et là, j'ai un homme à qui dont je pense que là, cette fois-ci, il est vraiment de bonne foi, qui prône l'ouverture des portes et des fenêtres. Bien. Qu'il le fasse.
Alors, on continue d'en parler juste après la pause, 18h40. On se retrouve dans un instant pour les grandes voix avec Gérard Carrérou et Charles Villeneuve pour parler de cette réforme, peut-être à venir, de l'école de la magistrature. À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
18h42, on est toujours en direct. Europe Soir, avec le débat des grandes voix, Charles Villeneuve et Gérard Carrérou ce soir à mes côtés. Et on parle de cette nomination de la part d'Éric Dupond-Moretti qui a décidé donc de nommer une avocate pénaliste pour diriger l'École nationale de la magistrature. Alors Charles Villeneuve, si on écoute le ministre Éric Dupond-Moretti, selon lui, les magistrats sont hors sol, déconnectés des citoyens, corporatistes. Est-ce qu'il exagère pas un peu quand même, le ministre de la Justice, là ?
Vous croyez que c'est exagéré quand vous n'avez aucune culture de doute et qu'à 25 ans, vous prenez des décisions qui impliquent la vie de beaucoup de justiciables ? Moi, je pense que le président, pour revenir d'ailleurs sur ce que disait au début Gérard Carrérou, je pense que le président de la République, en choisissant Éric Dupond-Moretti, sans le dire, sait qu'il a un problème de fond aujourd'hui dans la magistrature, c'est qu'il se pense au-dessus du pouvoir exécutif et législatif. On peut vouloir réformer, si vous voulez, l'École nationale de la magistrature. C'est dans la fonction de ministre d'avoir une politique de formation des magistrats. Et la justice n'est pas une constellation de mauvaises habitudes. C'est ce qu'il veut dire quand dit, et que vous citez la phrase. Mais il faut savoir qu'à l'exception du Portugal, toutes les écoles européennes, en Suisse, en Belgique, et même au-delà, au Canada, en Angleterre aussi, la plupart des écoles qui forment les juges sont des anciens avocats. Et donc, si vous voulez, je pense qu'il s'en est inspiré, justement, pour essayer d'inoculer, en quelque sorte, si vous voulez, comme on le fait d'un vaccin, la culture du doute. C'est très important, la culture du doute. Et il s'est appuyé aussi sur l'opinion de plusieurs hauts magistrats, qui sont d'anciens magistrats, qui sont aujourd'hui honoraires, bien sûr, qui ne sont plus en activité.
Et puis, il dit autre chose, Éric Dupond-Moretti, on terminera peut-être là-dessus, Gérard Carrérou, il dit qu'ils doivent rendre des comptes quand ils se trompent. Ils fuient leur responsabilité,
les
juges.
Ah bah là, par exemple, il y a une belle occasion, effectivement, de rendre des comptes. Fadettes. C'est qu'on parle beaucoup, et on a à juste titre, de cette décision de nommer une femme avocate, ex-avocate, à l'École de la magistrature, à la tête. Mais on devrait aussi souligner largement ce soir les poursuites qui sont engagées contre un certain nombre de magistrats dans la fameuse affaire des fadettes.
Oui.
L'affaire est trop longue pour que je puisse y entrer.
C'est-à-dire que, Gérard, une petite correction, il n'y a pas de poursuite, c'est une enquête administrative.
Oui, mais enfin, pour les gens, ça reviendra
pour l'instant, il n'y a pas de décision.
Non, mais tu as raison, c'est une enquête. Donc, effectivement, il faut demander des comptes aux juges. Mais si vous voulez, moi, je ne veux pas parler en théoricien, je veux parler simplement en praticien. Je vais vous donner un exemple que je tire de ma famille. Mon beau-frère, j'ai un beau-frère américain. Il est sorti de l'université de Yale avec ses diplômes de droit. Oui. Il est entré immédiatement après auprès du district attorney de New York, Giuliani d'ailleurs, qui a fait carrière largement après. Il a été un des adjoints de Giuliani pendant de longues années, après quoi il est devenu avocat. Et peut-être aujourd'hui, il ne le dit pas vraiment, mais il espère bien qu'un jour, peut-être, il pourrait redevenir juge, peut-être, non pas à la Cour suprême, mais
procéder
dans une
à des passerelles.
Ça veut dire que quand on a été dans les deux fonctions, ne voit pas les choses
de la même manière.
C'est pour ça qu'on dit toujours, les juges, ils poursuivent toujours à charge et non pas à charge et à décharge.
Oui.
Et ben c'est aussi parce qu'ils ont été formatés comme ça.
Bien. Un dernier mot, Charles ?
Oui, je vais prendre un exemple français. Le juge d'instruction à Alès, qui m'interrogeait lorsque j'étais à TF1 sur des reportages, me dit « Rachida Dati, garde des Sceaux, a introduit un stage d'avocat à l'École nationale de la magistrature. » Eh bien, quand je l'ai fait, j'ai eu des nausées, M. Villeneuve. C'est vous dire, si vous voulez, que l'avocat, pour eux, c'est ceux qui absout le crime.
Oui. Bien.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
On poursuit avec la politique, la ligne de départ qui se précise pour 2022. Il pourrait être les empêcheurs de tourner en rond d'Emmanuel Macron et de Marine Le Pen, dont le duel polarise l'attention. À gauche, Anne Hidalgo, qui commence à se positionner, alors qu'à droite, Xavier Bertrand passe à l'offensive. Il était d'ailleurs hier l'invité du grand rendez-vous d'Europe 1.
Il faut être candidat pour présenter un projet de société. Vous savez ma détermination à être candidat, donc je ne vais pas me cacher derrière mon petit doigt. Il serait temps dans notre pays qu'on, d'une certaine façon, on dise oui à quelqu'un et à un projet et qu'on arrête de dire non seulement à l'extrême droite.
Voilà, il y croit dur comme fer, hein, Xavier Bertrand, on l'entend. Est-ce qu'il peut incarner un renouvellement ? Certains de ses adversaires à droite disent de lui qu'il n'a ni, c'est pas très sympa, hein, il n'a ni la sagesse de Juppé, ni la fraîcheur d'un Emmanuel Macron. Cela fait 20 ans, disent-ils, qu'il fait de la politique et qu'il est élu.
Oui, mais c'est bien pour lui d'être attaqué, parce que ça prouve qu'on commence à le prendre au sérieux.
Au sérieux, c'est
oui,
une alternative
crédible.
Bien
évidemment, il a marqué plusieurs points importants depuis peu de temps. Pourquoi ? Premier point important, peut-être essentiel, c'est que le favori de toute la famille de la droite républicaine pour le poste de candidat à la prochaine, c'est François Baroin. Mais comme on a l'impression, beaucoup en tout cas, on a l'impression
qu'il semble se défiler,
que Baroin se défiler ou se dissoudre dans les nuages du bonheur, à ce moment-là, Bertrand apparaît comme le plus sérieux challenger. Et puis deuxièmement, il est porté par l'actualité avec l'affaire de Bridgestone. Et troisièmement, dans sa région, alors il faut qu'il soit réélu s'il veut jouer un rôle important après, mais s'il est réélu...
Pour les régionales en mars
2021. Mais c'est dans quelques mois. Et il est là, il travaille comme un fou. Il a créé une espèce de think tank qui s'appelle La Fabrique. Oui. J'ai un de mes anciens collaborateurs qui travaille avec lui. Et je peux vous dire que sa fabrique dure, là. Donc, il est un peu l'étoile montante.
Bien, il paraît qu'en privé, le président dit de lui qu'il n'est pas fiable. Voilà, vous me répondrez dans un instant.
Le président
de la République. Il paraît qu'il dit ça de
Macron,
de Xavier Bertrand, oui, qu'il n'est pas fiable.
Ah ben ça, il ne pourrait pas dire le contraire entre nous. Bon. Parce que justement, depuis sa déclaration comme candidat à la présidentielle en Corse cet été, depuis à l'Élysée, moi je peux vous dire qu'il surveille de très près l'itinéraire et les déclarations de Xavier Bertrand.
Alors, Xavier Bertrand, alternative pour la droite en 2022, on en parle dans quelques secondes. À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
18h51, on est toujours ensemble avec les grandes voix à mes côtés en studio d'Europe Soir, Charles Villeneuve et Gérard Carrérou. Et on parle de l'hypothèse Xavier Bertrand qui avance ses pions en prévision de la présidentielle de 2022. Alors, Charles Villeneuve, on sait qu'à droite, c'est lui, c'est vrai, qui en a le plus envie. Dixit d'ailleurs Rachida Dati, qu'il rappelle régulièrement. Mais sa popularité chez les électeurs LR, il n'est qu'à 18% contre 26% pour Édouard Philippe, l'ancien Premier ministre, par exemple. Est-ce qu'il peut créer la surprise, Xavier Bertrand ?
Moi, je l'intègre pas dans une hypothèse de surprise. Je l'intègre plutôt, de la même manière d'ailleurs, j'intègre aussi Anne Hidalgo à gauche, dans une hypothèse, si vous voulez, capable de rogner par les deux bouts le socle d'Emmanuel Macron.
Oui.
Hidalgo à gauche et Xavier Bertrand, chantre social, puisque c'est ça son créneau, c'est le social.
Oui.
Et d'ailleurs, il avait gagné contre l'extrême droite les Hauts-de-France, la région des Hauts-de-France, en prenant le social. Et c'est vrai qu'il fait beaucoup de social dans les Hauts-de-France.
Oui.
Pour lui, sa primaire, il l'a dit d'ailleurs justement en Corse, à déclaration à laquelle je faisais allusion tout à l'heure, pour lui, sa primaire, ce sont les régionales d'avril 2021. Et si ces régionales lui sont favorables, je pense qu'on aura des difficultés à l'arrêter. Mmh. Et d'ailleurs, arrivent aussi les premiers ralliements. Rachida Dati, Damien Abad, Guillaume Pelletier, depuis 2-3 jours, et un rendez-vous d'ailleurs avec Nicolas Sarkozy que lui prépare Rachida Dati.
Alors, vous savez ce qu'il dit de lui, François Bayrou, à propos de sa victoire, justement, que vous évoquiez au régional. C'est un petit tacle contrôlé. Hein. Le président du Modem, il dit il a été élu à la présidence de sa région avec le soutien, c'est vrai, hein, de toutes les forces politiques républicaines contre l'extrême droite. Et aujourd'hui, il déchire ce pacte.
Oui, bah écoutez, Gérard Carrérou. Ça, c'est un tacle politique, j'y accorde peu d'importance.
Bon. Mais sur le positionnement politique, peut-il gagner ?
Ce qui est important, c'est qu'il n'y a plus beaucoup de tribuns de la plèbe, si vous voulez, c'est-à-dire de gaullisme populaire. Or, Xavier Bertrand...
Il en est un, selon vous.
Il représente... Regardez le personnage. C'est tout le contraire d'un énarque. Oui. Il n'a pas été énarque.
Non, ancien assureur, il vient de la société civile.
Il a la tripe assez populaire. Et effectivement, ça a joué d'ailleurs dans sa région. Il est plutôt de cette souche-là, c'est-à-dire cette droite qui est plus droite gaulliste sociale, si vous voulez. Et à mon avis, il a du grain à moudre s'il joue là-dessus. Je crois qu'il jouera là-dessus.
Je ne sais pas si vous vous souvenez, avant qu'il aille candidater au régional, oui, des Hauts-de-France, il était un peu, comment dirais-je, impopulaire, il avait raté son virage politique, et puis ses conseillers lui ont dit, tu devrais te lancer au régional, si tu gagnes les Hauts-de-France et que tu ravives les Hauts-de-France au Front National, tu peux renaître. Et
oui, mais bien sûr, il faudra qu'il le redémontre une deuxième fois, il faut qu'il se fasse réélire brillamment dans les Hauts-de-France, c'est ses primaires à lui. Mais je voudrais quand même vous avez dit Hidalgo, je ne sais pas si on aura le temps de parler d'Hidalgo, mais Madame Hidalgo, c'est moins net, parce que Bertrand, maintenant tout le monde sait qu'il est candidat, il l'a martelé encore sur Europe 1 dimanche matin.
Oui.
Mais Madame Hidalgo, elle, c'est tout le contraire, elle ne dit pas qu'elle sera candidate, mais tout...
Elle ne dit plus qu'elle sera candidate.
26% des Français estiment qu'elle ferait une bonne candidate pour la gauche. Là,
mais
là,
bien,
hein.
Elle est là, elle peut devenir la Madone, si vous voulez, des écolos socialo, celle qui fait l'union de la gauche avec une grosse part d'écologie. Et ouais. Elle a fait, au fond, ça serait faire en France ce qu'elle a fait à Paris.
Charles Villeneuve.
Mais c'est pour ça qu'elle peut complètement assécher le en même temps de gauche, ouais, du président. Mais pour revenir à Xavier Bertrand, son créneau est très simple. Il est tout ce que n'est pas, de toute façon, Emmanuel Macron, le chef de l'État. C'est-à-dire non seulement social, mais sécuritaire aussi. Il l'a dit d'ailleurs, s'il avait l'angle de la sécurité, s'il était préoccupé à ce que ressentent les Français, le président de la République, il aurait pris l'angle sécuritaire. Or, et sur le séparatisme, et sur le sécuritaire, c'est vrai que jusqu'à présent, le sera-t-il peut-être, puisqu'il va prononcer un discours dans peu de temps, le chef de l'État.
Qu'il a repoussé encore,
ça fait beaucoup de temps qu'il repousse.
Ouais, hein. Ouais. Merci messieurs, merci Charles, merci Gérard.